Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui démonte les rouages de l'économie mondiale. Aujourd'hui, nous revêtons nos habits d'apparent, en quelque sorte, pour recevoir le grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique avec Frédéric Maury de Jeune Afrique. Bonjour Frédéric.
Bonjour Jean-Pierre.
Nous recevons l'économiste franco-algérien Kamal Benkoussa. Bonjour Kamal Benkoussa.
Bonjour.
Kamal Benkoussa, vous êtes né à Charleville-Mézières, dans les Ardennes françaises, au nord du pays, en 1972. Et 42 ans plus tard, en 2014, on vous retrouve candidat à la présidence de la République algérienne. Entre-temps, vous avez navigué dans les milieux de la finance à Londres. C'est un parcours compliqué. D'abord, pourquoi la naissance à Charleville-Mézières ?
Tout simplement parce que mes parents ont émigré dans le nord-est de la France. Puisque à cette époque-là, quand une personne du village bougeait vers une région de France, ça facilitait les autres personnes du village de pouvoir les rejoindre. Il y avait cet esprit de solidarité qui faisait que finalement, c'était une sorte d'émigration naturelle. Donc une grande partie de ma région avait émigré dans le reste de la France.
Et votre région, c'était ?
C'est la Kabylie, c'est Ifri, le village où nous avions eu le congrès de la Soumam le 20 août 56. Donc, ça s'est fait plus ou moins naturellement, sans vraiment y réfléchir.
Et votre père, il faisait quoi ?
Alors, mon père était ébarbeur. Alors, ébarbeur, c'est lorsque vous avez des pièces de fonderie, elles ressortent du four et elles ont toute cette partie d'impureté extérieure au niveau des coins. Et mon père enlevait ces impuretés. Donc, pendant 40 ans, il a fait de l'ébarbage.
Un travail difficile ?
Très, très difficile. Les pièces pesaient en moyenne 100 kilos, qu'il fallait donc bouger ça à la force des bras. Donc beaucoup de mérite, beaucoup de persévérance et surtout un grand sacrifice de sa part d'avoir supporté la dureté du travail pour nourrir sa famille.
Votre mère ?
Ma mère, femme au foyer, très méritante, car avoir 7 enfants et s'occuper d'éducation de ses enfants alors que le papa est occupé par le travail, il y a un grand mérite de la part de ma mère.
Alors Kamal Benkoussa, comment est-ce qu'on passe de Charleville-Mézières à la City de Londres ?
J'ai eu la grande chance d'avoir rencontré un professeur d'université quand j'étais étudiant à Reims, qui m'avait conseillé de partir à Dauphine.
À l'université Dauphine, à l'université Paris-Dauphine. Dauphine.
Voilà. Et donc,
qui est une université où on fait de la finance.
Ou de l'économie, de la finance. Et donc, il m'a aidé à m'inscrire à Dauphine en remplissant avec moi le dossier. Et puis, au fur et à mesure que j'ai continué dans mon cursus universitaire, j'ai commencé à aimer donc l'économie, la finance. Et là, après un entretien chez BNP Paribas, on me conseille de partir à Londres pour essayer ma chance sur les marchés financiers à Londres.
Ça a marché ?
Mais non, ça a été assez difficile parce que mon anglais était très pauvre. Donc ça a été 6 mois de petit boulot. Et puis finalement, un jour, je passe un entretien dans un hedge fund américain. Le premier entretien avait duré un peu plus d'une heure. Alors j'ai su après coup que celui qui m'avait fait passer l'entretien avait émis une note négative sur ma candidature. Mais le patron du fonds avait voulu me revoir. Et donc, il m'a fait repasser un autre entretien. On a passé 2 heures ensemble. Et au bout des 2 heures, j'ai été pris par le fonds.
Alors, ce que je ne comprends pas dans le récit que vous venez de nous faire, c'est la BNP Paribas ne vous embauche pas, mais vous conseille d'aller vous faire voir à Londres. C'est ça ?
Non, la personne était agréable parce que je venais d'arriver. J'avais présenté ma thèse. Et la personne m'avait dit, j'avais donc programmé les modèles que j'avais utilisés avec un logiciel qui s'appelle MATLAB, que BNP Paribas n'utilisait toujours pas et qu'ils allaient commencer à utiliser. Et donc, en disant, il m'avait expliqué que le cursus en finance que j'avais entamé était un peu en avance par rapport à ce qui se faisait ici en Europe et que le pays qui pourrait plus matcher ce background était l'Angleterre. Donc, c'est pour ça que je suis parti.
Alors, au cours de cette émission, Kamal Benkoussa avec Frédéric Maury de Jeune Afrique, nous allons parler de l'économie algérienne, de cette économie algérienne confrontée à un baril de pétrole en chute libre depuis 2 ans. Nous vous interrogerons sur les moyens qu'il y aurait, selon vous, de relancer, de réformer cette économie. Nous entendrons la correspondante de RFI en Algérie, Leïla Berato, et nous nous plongerons dans le passé avec quelques archives sonores. Kamal Benkoussa, avant de nous plonger dans ces questions purement économiques, encore un mot sur votre parcours. Qu'est-ce qui vous a décidé à revenir vers l'Algérie ?
Tout simplement l'amour de mon pays. Étant né en France, je me suis toujours considéré comme étant algérien. La culture familiale était importante, et puis historique aussi, venant de ce village qui a marqué l'histoire de l'Algérie, le village d'Ifri dans la vallée de la Soumam. Donc il y a toujours eu pour moi un sentiment de pouvoir un jour devenir utile à mon pays. Donc voilà, c'est quelque chose finalement qui est naturel.
Question de Frédéric Maury.
Alors, vous avez fait irruption un peu sur la scène publique, puisqu'avant, vous n'étiez pas forcément très connu. Vous avez fait cette irruption il y a 2 ans, au moment de la campagne présidentielle en Algérie. Vous avez été candidat, et vous n'avez pas été jusqu'au bout. Alors, pour quelle raison ?
Alors, pour clarifier, j'ai commencé donc à donner des interviews à partir de 2006-2007.
Mmh. Mais en tant qu'économiste ?
En
tant que politique, si.
En tant qu'économiste, mais enfin, ouais. Bref. L'idée, c'était plutôt de pouvoir partager une opinion économique, pour pouvoir apporter des solutions à un pays qui était dans une impasse et essayer d'ouvrir les yeux à nos gouvernants, telle sorte à ce qu'on puisse réellement mettre en place certaines réformes.
Donc quand vous vous présentez, c'est la suite logique de cette participation au débat public en Algérie ?
Non, finalement, c'est que la suite logique, elle apparaît lorsque vous comprenez que vous n'êtes pas nécessairement écouté, que le temps passe et que nous perdons du temps. Et que finalement, toute problématique économique en Algérie est avant tout une problématique politique. Et donc, on ne peut pas... C'est Barack Obama qui disait, je pense, une idée ou une vision sans action ne reste qu'une idée. Et c'est exactement le cas en Algérie. Donc il faut aujourd'hui avoir une implication politique pour essayer de faire avancer la machine économique, les réformes sociales. Donc,
est-ce voilà. qu'elle a servi à quelque chose, cette candidature, à votre avis ?
Ah oui, elle a servi à quelque chose. Enfin, du moins, de pouvoir passer du statut d'économiste et de financier à quelqu'un qui, aujourd'hui, a pour ambition d'apporter des solutions politiques. Alors, pour la question pourquoi avoir arrêté, c'est qu'au bout d'un moment, on s'est rendu compte que le jeu était fermé, que Bouteflika, lorsque le Premier ministre Sella l'avait annoncé à Oran qu'il serait candidat à l'élection présidentielle, les informations qui nous étaient données montraient clairement qu'il serait réélu. Et je n'avais pas pour ambition... Je n'avais pas laissé un travail, ma position de partenaire dans un fonds américain à Londres pour jouer un jeu de mascarade, rentrer dans une mascarade en Algérie. Je suis allé pour essayer d'apporter des solutions concrètes et ne pas rentrer dans un jeu de politicien.
Et s'il y a une nouvelle élection, vous serez à nouveau candidat ? Parce qu'il y a un projet de révision de la Constitution, un projet de loi qui interdirait aux binationaux de se présenter. Donc vous êtes binational. Donc oui. Vous seriez concerné par une réforme de ce type ?
La Constitution a été changée. Ça a été voté.
Ça a été voté. Est-ce que du coup, comment vous réagissez du coup par rapport à cette décision ?
Non, j'ai répondu à cette question au Figaro et à des journaux locaux en Algérie où je me suis indigné de cette disposition dans la mesure où on essaie maintenant aujourd'hui de créer deux catégories d'Algériens, les binationaux étant une catégorie de seconde zone. Alors que tout le monde sait le rôle que les binationaux, la diaspora joue aujourd'hui en Algérie. Il y a un savoir-faire, une compétence qui permettrait au pays de pouvoir avancer. Je pense que cette mesure a été prise parce qu'ils ont eu peur de l'entrée de compétences en politique en Algérie. Ça a été clairement en direction des candidats binationaux. Ceci étant dit, vous savez, il y a eu autant de constitutions que de présidents, voire plus. Aucune n'a été respectée. Je pense que cette nouvelle constitution, enfin du moins l'article 51, est totalement illégitime. Je suis convaincu que les choses vont se compliquer économiquement et que demain, il va falloir faire appel à cette diaspora. Donc je n'ai pas de...
Alors, voyons justement vos compétences économiques, Kamal Benkoussa. Laissons de côté ce débat politique qui nous en rappelle certains ici en France. Le prix du pétrole a baissé de plus de 70% au cours des 2 dernières années. Un communiqué récent du président Bouteflika lui-même le constate. Comment expliquez-vous, vous le trader, vous l'Algérien, vous l'homme concerné par ces questions, comment est-ce que vous expliquez cette chute, cet effondrement des cours du pétrole ?
C'est tout simple, c'est que le pétrole, c'est une commodité, c'est une offre, une demande. Donc quand vous avez une économie qui ralentit, vous avez automatiquement une baisse de la consommation de pétrole. Et même si vous avez une production qui reste stable, cette baisse de demande de pétrole fait que le prix du pétrole diminue. Et d'ailleurs, vous regardez le minerai de fer baisse, toutes les commodities aujourd'hui sont...
Toutes les matières premières sont en
L'ampleur de la chute sur le pétrole, elle est quand même intensément plus grande que ce qu'on voit sur les autres commodités, puisqu'on est passé de plus de 100 dollars à 30 dollars à un moment donné.
Donc on est
quand même sur un niveau de chute qui est quand même... impressionnant. Certes, la croissance mondiale a ralenti, mais pas au point qui justifie cet effondrement.
Ah non, mais je vous assure que si vous regardez... J'avais tweeté en décembre 2014. J'avais tweeté que le prix du baril toucherait les 32 dollars. Si vous regardez un graphique Bloomberg, vous faites des analyses techniques dessus, c'était totalement prévisible.
Donc le cours actuel vous paraît logique. Finalement, c'était les 100 dollars qui n'étaient pas très logiques, c'est ça?
Non, il y a toujours une logique au moment T. Donc, lorsque vous avez un ralentissement économique et que la demande baisse, c'est normal que ces prix baissent.
Et l'Algérie doit s'habituer à ce cours-là.
Mais l'Algérie ne devrait pas s'habituer à ces cours-là. L'Algérie devrait être totalement indépendante de ces fluctuations. Et malheureusement, nous n'avons pas réussi à réformer, à restructurer l'économie de telle sorte à ce qu'on puisse être à l'abri de ces fluctuations à l'international.
Frédéric Maury.
Et du coup, alors quand vous dites vous n'avez pas réussi, enfin l'Algérie n'a pas réussi à se mettre à l'abri, c'est-à-dire vous parlez de diversification économique, c'est ça? Ça veut dire grosso modo qu'aujourd'hui le pays reste très dépendant en termes d'exportation, en termes de recettes publiques du pétrole. Et est-ce que du coup la situation pour l'économie algérienne est particulièrement grave aujourd'hui?
La situation du pays actuellement est très grave. Il y a eu plus de 900 milliards de dollars qui ont été investis sur les 15 dernières années. 900 milliards de dollars. Si vous vous promenez dans les rues d'Alger ou de d'autres villes d'Algérie, vous verrez que en termes d'infrastructure, il y a de grands manques. En termes de services à la santé, il y a de grands manques à tous les niveaux. Et vous vous posez la question, où sont passés ces 900 milliards de dollars? Il y a clairement eu un défaut dans la stratégie d'investissement du pays, croyant que c'est... avec une vision court-termiste, croyant qu'on avait une marge de manœuvre importante, c'est là que c'était très intéressant. C'est que quand on parlait de 200 milliards de dollars de réserve de change, à l'échelle d'un pays, c'est rien. L'Algérie, c'est cinq fois la France, et le PIB français, c'est 10 fois le PIB algérien. Donc 200 milliards de dollars n'est rien à l'échelle d'un pays. Et quand on regarde aujourd'hui la gestion... qui est faite de ces 200 milliards de dollars, elle est pauvre. Elle n'a pas de vision, rien n'est clair. Donc l'Algérie aujourd'hui avait... Enfin, depuis 2000, l'Algérie avait la possibilité de pouvoir réformer, restructurer son économie. L'argent est devenu très faible, très, très, très bon marché. Trouver de bons projets d'investissement dans les domaines où l'Algérie aurait des avantages comparatifs et pouvoir mettre en place... Je ne dirais pas un plan Marshall, mais ce serait à la limite d'avoir un plan Marshall intégrant toutes les forces vives du pays. Et je parle de chefs d'entreprise qui savent faire des affaires en Algérie, qui savent comment développer certains secteurs d'activité. Mais aujourd'hui, malheureusement, cette fenêtre d'opportunité a été ratée, et notamment durant la crise des subprimes 2008-2009, où nous avions eu une baisse importante des marchés actions, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis, où il y avait de belles entreprises avec de bons actifs, avec du bon savoir-faire que l'Algérie aurait pu acquérir en faisant des effets de levier, prendre 35% ou 40% de l'entreprise et pouvoir être majoritaire dans ces entreprises et pouvoir les faire venir en Algérie, installer ces entreprises en Algérie pour pouvoir non seulement développer cette activité en Algérie, dans la région et en Afrique. Ça, nous l'avons loupé.
Kamal Benkoussa, le gouvernement algérien a malgré tout réagi pour faire face à cette baisse des prix du pétrole. Il a augmenté le prix de l'essence à la pompe. De grands travaux ont été stoppés. Écoutez ce reportage signé Leïla Berato à Alger il y a 2 mois, au moment où les prix de l'essence ont augmenté.
Assis contre son taxi, Mourad attend les clients. Pour son travail, il fait un plein d'essence par jour, un plein qui lui coûte beaucoup plus cher.
Avant, ça fait 800, minimum 900 dinars. Et maintenant, 1200, 1300.
De l'autre côté de l'avenue, le responsable de la station-service a affiché la directive d'augmentation des prix sur un poteau avec un bout de scotch.
Il y a des gens qui réclament. Il y a des gens qui s'en foutent. Voilà, et je leur dis, le tarif a augmenté, l'essence a augmenté. Hein. Ils me disent, ça fait rien. Mais il y a beaucoup de réclamations.
Par la fenêtre de son pick-up, un client lui tend un bon d'essence, un avantage donné par certains employeurs à leurs salariés, mais qui a perdu de sa valeur.
avant, vous remplissez 50 litres. Maintenant, c'est 36 litres, 78, 37 litres. Il a diminué de 13 litres, le banc.
Le client, lui, a dû augmenter son budget carburant.
On travaille pour l'essence, on ne fait plus rien, on ne s'occupe pas de nous. Mais au moins, il y aura moins de bouchons.
Est-ce que cette hausse du prix de l'essence en Algérie a gravement atteint le pouvoir d'achat de la population ?
Oui, il l'a atteint, et pas que le prix de l'essence, d'autres produits aussi ont augmenté de façon significative. Là où il y a une absurdité, c'est que pendant des années, et notamment durant le printemps arabe...
Donc en 2011
Le gouvernement s'est lancé dans une fuite en avant à subventionner une majorité des produits de base en Algérie, alors que les Algériens ne demandaient qu'une seule chose, c'était d'avoir un travail, d'être bien rémunéré et de pouvoir payer eux-mêmes leurs produits, leurs loyers et leurs véhicules. Vous savez, l'Algérien a beaucoup de dignité. Et certains ont bien profité de cette période, mais beaucoup se plaignaient à cette époque-là, où se rendaient compte que finalement, le jeu du gouvernement était plus ou moins d'essayer de les acheter que plutôt de leur offrir réellement un avenir solide et viable. Donc, j'avais donné une interview il y a quelques années en disant que le gouvernement serait dans l'obligation de stopper ces subventions. Et on y est aujourd'hui. Maintenant, est-ce que l'Algérie devrait rentrer dans une politique de restriction, d'austérité ? Moi, je ne crois pas.
Pourquoi ?
Parce que c'est un pays jeune, avec beaucoup de potentiel, avec beaucoup d'avantages comparatifs. C'est un pays qui mérite... d'avoir à sa tête des personnes qui pourraient réellement articuler une vision qui lui permettrait de pouvoir profiter un maximum de ses potentialités. Nous avons 70% de la population qui a moins de 35 ans. Nous avons des ressources aujourd'hui qui ne sont toujours pas exploitées. Nous avons une diversité territoriale qui est phénoménale. Et en plus un positionnement géographique qui permettrait à l'Algérie d'être le trait d'union entre l'Europe et l'Afrique.
Là, vous parlez du moyen terme et du long terme, mais il y a aussi une urgence en ce moment. C'est-à-dire qu'au-delà des perspectives et des promesses de l'Algérie, il y a quand même un problème de finances publiques, une urgence financière qui est là en ce moment, qui joue cette année. Est-ce que vous pensez que les réformes qui sont prises sont bonnes ? Est-ce que vous pensez que l'Algérie va forcément diminuer ce train de vie social, réduire ce train de vie dont vous parliez tout à l'heure, avec beaucoup de dépenses sociales pour pallier à cette urgence ? Ou est-ce qu'elle peut passer ce cap sans trop de difficultés ?
Alors, il y a plusieurs points sur cette question. Quels sont aujourd'hui les plans d'investissement du gouvernement ? Est-ce que ce sont des investissements qui pourraient apporter un rendement important, suffisant par rapport au type d'investissement qui est fait ? Est-ce que ce sont des investissements qui serviraient une majorité des Algériens ? Ou est-ce que ce sont des investissements qui finalement seraient à perte, comme une majorité des entreprises publiques en Algérie ? Donc ça,
c'est... Et vous répondez quoi ? Si vous posez des questions, mais quelle est la réponse ?
Ma réponse, c'est qu'aujourd'hui, dans la majorité des entreprises publiques, elles sont majoritairement déficitaires. Vous avez aujourd'hui Sonelgaz qui, par exemple, aujourd'hui a un endettement de 21 milliards de dollars, qui veut aller à l'endettement international à hauteur de 8 milliards de dollars parce qu'elle dit qu'elle n'a pas aujourd'hui la liquidité suffisante pour pouvoir assurer certains de ses projets. Il y a une grande question à se poser. Quelle est aujourd'hui la stratégie d'investissement mise en place ? Est-ce qu'on finance des projets à perte ? Ou est-ce qu'on finance des projets qui permettraient à l'économie de pouvoir grandir, grossir ? Donc, des solutions existent.
Kamal Benkoussa, ces solutions, nous les aborderons dans la deuxième partie de cette émission. Nous arriverons au terme de cette première partie d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, dans sa version grand invité de l'économie. Nous nous retrouvons dans quelques minutes après un flash d'actualité.
Écho d'ici, Écho d'ailleurs. Sur RFI. Écho d'ici, Écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier.
Bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, dans sa version grand invité de l'économie. Aujourd'hui, avec Frédéric Maury de Jeune Afrique, nous recevons l'économiste algérien Kamal Benkoussa. Dans la première partie de notre émission, nous avons détaillé son parcours de Charleville-Mézières dans les Ardennes françaises à la candidature présidentielle en Algérie il y a 2 ans, en passant par une carrière de trader à Londres. Nous avons évidemment commencé à aborder la situation de l'Algérie face à la baisse des cours du pétrole. Mais il y a un autre sujet encore plus préoccupant en Algérie, c'est la paralysie de l'économie. Alors les projets, il y en a. Je vous propose à ce sujet d'écouter Amara Ben-Younes, le 6 avril 2014, alors ministre de l'Industrie et du Commerce, ce qu'il n'est plus aujourd'hui. Amara Ben-Younes était l'invité d'International, l'émission conjointe de RFI, de TV5 et du Monde. On était à 10 jours de l'élection présidentielle et voilà ce qu'Amara Ben-Younes disait du programme économique de son candidat Abdelaziz Bouteflika.
C'est un mandat qui sera essentiellement un mandat économique. C'est un mandat où nous allons essayer d'avoir une croissance économique forte pour régler un problème sérieux que nous avons, qui est le problème du chômage et notamment le problème de la jeunesse algérienne. En termes d'économie, on a 2 grands défis à relever. Le premier défi, c'est le passage de cette économie socialiste, bureaucratique, à une véritable économie sociale de marché. Et le deuxième défi, c'est celui dont vous parlez. L'économie algérienne est encore, hélas, beaucoup trop dépendante des hydrocarbures. Notre défi pour les 5 prochaines années, c'est vraiment la diversification de l'économie algérienne. Et si le président réélu, si je suis reconduit dans mes tâches, la tâche m'incombe essentiellement pour redresser sur le plan industriel le pays. C'est une économie très particulière. Vous avez un secteur public où il y a beaucoup de problèmes, notamment durant les années 90. On a fermé beaucoup d'entreprises, il y a eu des licenciements, plan d'ajustement structurel du Fonds monétaire international. Nous avons un secteur privé qui est en train d'émerger. Nous n'avons pas un secteur privé extrêmement puissant. Les investissements directs étrangers qui étaient hésitants pendant quelques années à cause du phénomène de la violence. Donc ce sont sur ces 3 piliers que nous comptons faire reposer l'économie algérienne. Donc, redynamiser le secteur public, ce que nous sommes en train de faire parce que c'est le tissu industriel. Il y a beaucoup d'industries du secteur public. Nous sommes en train d'aider le secteur privé et nous avons quand même beaucoup d'investissements ces derniers temps des grandes multinationales étrangères, notamment françaises, qui sont venues s'implanter en Algérie cette dernière année.
Question de Frédéric Maury.
Alors, ce programme économique, le gouvernement en est où aujourd'hui par rapport à ses déclarations d'il y a 2 ans?
Il est nulle part. C'est du discours politicien. Je ne sais même pas si M. Ben-Younes comprend la dimension économique de la problématique en Algérie. Lorsqu'il dit que nous allons essayer d'aider les entreprises privées à se développer parce que le secteur privé est anémique en Algérie, au vu de ce qu'il a fait pendant la période où il était ministre de l'Industrie, je doute clairement que M. Ben-Younes prenait la mesure de ses responsabilités lorsqu'il était en charge de l'industrie.
Mais quand on entend son discours, c'est quand même assez proche de ce que vous nous avez dit tout à l'heure. Je veux dire, il fustige la mauvaise gestion publique, il le dit pas comme ça, mais c'est ce qu'il dit. Il dit qu'il faut développer le privé, il dit qu'il faut des investissements plus productifs. Ça ressemble à ce que vous dites, donc vous êtes plutôt en accord avec lui. Ce que vous dites, c'est qu'ils n'ont pas fait ce qu'ils ont promis.
Enfin, déjà, ça prouve qu'il sait lire certaines déclarations d'experts en Algérie et il sait reprendre à son compte certaines idées. Entre dire des choses et agir, il y a un monde. Je ne pense pas qu'ils comprennent assez bien le modèle économique dans lequel l'Algérie devrait s'inscrire pour pouvoir
mettre en place... Dans quel modèle devrait-elle s'inscrire, cette économie algérienne?
Si demain, j'étais à la tête de ce pays, la première des choses, ce serait déjà de réunir tous les chefs d'entreprise algériens et de créer un conseil avec des experts, aussi bien algériens locaux qu'à l'international. Essayer de voir quelles sont aujourd'hui les options que le pays pourrait prendre. Quels seraient les secteurs dans lesquels nous aurions des avantages comparatifs? Pas nécessairement qu'aujourd'hui, mais demain. Quels sont les secteurs à développer?
Mais quels sont ces secteurs selon vous?
J'avais, durant la campagne, développé l'idée de tourner l'Algérie vers le sud. L'idée était très simple. C'était en plus une idée qui avait été développée par la France juste avant 1928. Mais malheureusement, ce projet s'est arrêté du fait de la crise. Lorsque l'Algérie était encore française, ils avaient décidé de créer 3 hubs portuaires à l'ouest, au centre et à l'est, et de faire une ligne de train qui irait jusqu'en Zambie, et de faire de l'Algérie la Singapour de l'Afrique. En gros, permettre à tous ces pays subsahariens de pouvoir bénéficier d'un accès à la mer et avoir une industrie au sud de l'Algérie qui permettrait d'utiliser les matières premières et de pouvoir commencer à produire et de pouvoir exporter. Malheureusement, ce projet a été abandonné en 1929.
Et vous pensez qu'il faudrait le réactiver ?
C'est pas que je pense, c'est que je suis intimement convaincu. Aujourd'hui, l'Algérie...
Vous n'avez pas l'impression que cette place-là que vous venez de décrire, elle a été prise un peu par le Maroc, puisque le port, c'est le port de Tanger. Le Maroc a énormément développé ses relations avec l'Afrique subsaharienne.
Bien sûr. Le Maroc a eu l'intelligence de comprendre son rôle au niveau du continent. Et l'Algérie a toute sa place, le pays, plus grand pays d'Afrique, avec un positionnement géographique exceptionnel. Je pense qu'il n'est jamais trop tard pour pouvoir mettre l'Algérie sur les bonnes rails.
Mais qu'est-ce que l'Algérie a à offrir à l'Afrique subsaharienne ?
Son accès à la mer, son accès à l'Europe, des réserves de change aujourd'hui qui lui permettent de pouvoir faire des effets de levier. L'Algérie est peut-être le seul pays d'Afrique qui peut encore aujourd'hui développer une industrie. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que les constructeurs automobiles français et autres veulent s'installer en Algérie.
Oui, enfin, les projets des constructeurs automobiles français en Algérie, ils sont dérisoires par rapport à leurs projets au Maroc.
C'est d'accord. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et c'est là aussi la problématique en termes de négociation, qui sont ces Algériens qui, aujourd'hui, au niveau du gouvernement, ne savent pas négocier avec Renault ou Peugeot ou même Volkswagen pour pouvoir défendre les intérêts du pays, à savoir développer une vraie industrie.
Vous pensez que le potentiel industriel algérien, il est plus important que beaucoup de pays africains ?
Bien sûr, beaucoup plus important. Vous savez, vous avez aujourd'hui, 2025, on parle de 50 millions d'habitants en Algérie. Vous avez une poussée démographique importante. Nous avons l'un des plus hauts taux de natalité dans la région. Donc il y a aujourd'hui une potentialité au niveau industriel et au niveau service qui est importante.
Je reviens à une question que posait Frédéric Maury à l'instant. Il évoquait le Maroc. Est-ce que vous pensez qu'il y a un modèle marocain de croissance, d'économie, dont devrait s'inspirer un éventuel gouvernement algérien que vous présideriez si...
C'est pas nécessairement un modèle marocain. La chance du Maroc, c'est de ne pas avoir eu du pétrole. Même si aujourd'hui, le Maroc se plaint de ne pas avoir de pétrole. Mais du moins, lorsque vous n'avez pas cette ressource qui est quelque part gratuite, vous avez tendance à aller dans des modèles qu'il va falloir être plus ingénieux et pouvoir travailler plus. Aujourd'hui, pendant pas mal d'années, les Algériens on leur a expliqué que tout se passait bien et qu'on avait du pétrole et qu'on pouvait se reposer. Je pense qu'il va falloir aujourd'hui remettre la machine en marche et faire en sorte que les Algériens travaillent, ce qu'ils demandent tous. Donc il y a la richesse de l'Algérie devrait être son capital humain et pas son pétrole et son gaz. C'est là la problématique économique, c'est que on est dans un modèle entre guillemets. Monsieur Benounès parlait d'un modèle socialiste. C'est pas vraiment nécessairement un modèle socialiste. Il est socialiste dans la mesure où il permet de pouvoir subventionner des produits et de pouvoir faire en sorte qu'une majorité se taise d'un système qui ne fonctionne pas nécessairement bien. Donc, il est socialiste dans ce sens-là, mais il n'est pas socialiste dans son idéologie. Vous voyez, aujourd'hui, en Algérie, il y a de grosses fortunes qui ont émergé. Je ne pense pas que dans un modèle socialiste, on puisse avoir d'aussi grosses fortunes émerger aussi rapidement. Le modèle dans lequel on devrait aujourd'hui installer l'Algérie, c'est de pouvoir utiliser le maximum de la potentialité des Algériens, des jeunes Algériens, de les former et de leur permettre d'être productifs. Aujourd'hui, vous savez que j'ai été agréablement surpris de l'ingéniosité des Algériens, des jeunes Algériens. Ils sont pleins d'imagination. Quand ils sont passionnés, ils se donnent un maximum. Et c'est ça qui est surprenant, c'est que malgré la décennie noire des années 90, ou même de 2000 à 2016, où ça n'a pas été nécessairement rose pour la majorité, vous voyez des jeunes Algériens qui y croient, et qui se battent, et qui ont envie d'y croire, qui ont envie d'apporter un changement. Et c'est là le point le plus important. Le modèle économique, le nouveau modèle économique algérien, doit se baser sur le capital humain.
Une question importante en Algérie, c'est qu'elle reste, malgré ce potentiel humain dont vous parlez, un des plus gros importateurs au monde de céréales. C'est probablement une des choses qui permet d'approvisionner en blé et en pain la population algérienne. Est-ce que cela veut dire que l'agriculture algérienne est complètement en panne ?
L'agriculture algérienne est en panne. Enfin, l'Algérie n'est pas un pays agricole.
Est-ce qu'il a le potentiel pour l'être ?
C'est un peu compliqué parce qu'on fait face à de gros problèmes d'eau en Algérie. Vous avez 90% de la population qui est sur 10% du territoire et le sud. Et d'ailleurs, vous avez sûrement été au fait de ce qui s'est passé concernant les projets d'exploitation du gaz de schiste. Il y a 5 milliards de mètres cubes d'eau dans le sol du sud, 2,5 milliards qui sont utilisés pour l'exploitation du gaz et du pétrole, 2,5 milliards qui sont laissés aux populations du Sud. L'exploitation du gaz de schiste aurait pollué une partie de ces 2,5 milliards de mètres cubes.
Donc vous pensez que le potentiel agricole algérien, il est limité, très limité par cette...
Je ne vois pas la problématique agricole de cette manière. J'ai très longtemps défendu l'idée de la création d'un fonds souverain en Algérie. Même d'un fonds de 50 milliards de dollars aurait suffi. Vous prenez l'exemple de la Chine, de l'Inde, qui aujourd'hui vont, enfin depuis pas mal d'années déjà, vont à la conquête de certains pays d'Afrique, Afrique de l'Est, notamment en Éthiopie, en Ouganda, pour pouvoir avoir des concessions sur 45, 90 ans et de pouvoir exploiter avec du savoir-faire, avec du financement, des terres arabes. Aujourd'hui, l'Algérie pourrait s'inscrire dans ce modèle-là.
Satisfaire ses besoins alimentaires en investissant dans des pays africains, par exemple, ou autres, dans lesquels il y a des terres arables et qui pourraient, voilà, où on pourrait l'alimenter.
Exactement. Il y a un capital historique diplomatique entre l'Algérie et la majorité des pays d'Afrique. On peut même aller jusqu'à l'Afrique du Sud. Mais avec l'Afrique de l'Est, l'Algérie pourrait exploiter et pouvoir être même exportatrice de produits agricoles.
Vous parliez d'eau tout à l'heure, il y a quelques minutes. Est-ce que c'est un sujet qui vous préoccupe, la question de l'eau en Algérie ?
Terriblement. Si vous regardez les raisons du conflit irako-syrien, vous constaterez qu'il y a eu des flux migratoires du fait d'un manque d'eau. Et c'est ces problématiques d'eau qui font que les populations bougent et que ça crée des tensions dans certaines régions. L'Algérie doit aujourd'hui répondre à ces problématiques d'eau. Et sans cela, nous aurons, malheureusement, je crains que certaines populations du Sud bougeront, immigreront vers le Nord, sachant qu'il y a de gros problèmes de logement. Je ne sais pas comment on pourrait gérer ces flux migratoires.
On parlait du Maroc tout à l'heure. Il y a un enjeu important pour l'Algérie, c'est le Maghreb, l'intégration maghrébine, la désintégration maghrébine, le fait qu'il n'y ait quasiment aucun lien commercial entre l'Algérie et le Maroc, et que du coup le Maghreb soit une des régions les moins, qui échange le moins par rapport aux autres régions africaines. Est-ce que vous avez l'impression que les choses bougent dans ce domaine? Est-ce que vous avez l'impression que ça c'est un vrai souci et qu'il faudrait régler ce problème-là? Parce que vous avez parlé de la connexion entre l'Algérie et les pays du sud du Sahara. Ah, mais quid de l'Algérie et des autres pays du Maghreb ?
Vous avez raison. Aujourd'hui, la solution pour tous les pays d'Afrique du Nord est une solution régionale. Croire que nous allons régler notre problème en Algérie seul, même concernant la situation en Tunisie ou en Libye, c'est une erreur. Tous les pays d'Afrique du Nord doivent réfléchir de façon globale. Et là, ça implique les responsabilités au niveau marocain, algérien et tunisienne. Mais il est clair que nous serions plus forts à travailler, à trader, à négocier ensemble que d'être continuellement dans cette division. Et d'ailleurs, il suffit de regarder la carte du Maghreb au IIIe siècle. Et quand le Maghreb était un royaume numide, pour vous rendre compte que finalement, ces populations sont identiques. Donc c'est un faux débat de croire que les frontières ont été imposées par la France. Elle n'existait pas avant. Les populations qui existent dans cette région ont la même origine. Donc lorsqu'on arrivera à comprendre que finalement, à plusieurs, on devient plus fort, là peut-être que les choses avanceront.
C'est Écho d'ici, Écho d'ailleurs sur RFI, dans sa version grand invité de l'économie, RFI Jeune Afrique. Nous recevons Kamal Benkoussa, ancien candidat à la présidence algérienne. Kamal Benkoussa, parlons maintenant des relations entre l'Algérie et la France. Les visites à haut niveau ont amené ces dernières années leur lot de déclarations. Au mois de décembre 2013, à la tête d'une délégation de 9 ministres, le premier ministre français de l'époque, Jean-Marc Ayrault, était à Alger, où il était reçu par son homologue, Abdelmalek Sellal. On écoute l'échange entre les deux hommes.
Nous avons voulu donner à la coopération entre les deux pays une primauté à la coopération économique. Parce que c'est ça le réel, c'est ça ce qu'on va laisser demain à nos enfants, à nos pays. C'est ça ce qui va créer la dynamique algéro-française. En une année, de très gros projets sont sortis, où tout le monde gagne dans l'affaire.
Il y a un concept que nous partageons, qui est le concept de colocalisation, c'est-à-dire que des entreprises françaises s'installent ici, investissent ici, créent des emplois ici, mais permettent aussi de produire en France.
Question de Frédéric Maury.
Alors ce concept de colocalisation, il est apparu il y a quelques années, puis il a été beaucoup utilisé au côté français et puis côté algérien aussi. Est-ce que vous croyez à la colocalisation ? Alors colocalisation, je répète peut-être pour les auditeurs, c'est l'idée finalement de produire dans le sud de la Méditerranée, en Algérie, au Maroc, etc., tout en permettant quand même de conserver des emplois au nord et donc d'avoir une complémentarité un peu entre les deux zones et donc une espèce de finalement gagnant-gagnant pour tout le monde. Est-ce que vous croyez à cette colocalisation ?
Oui, oui, j'y crois profondément. Si les accords sont bien réfléchis, si réellement c'est du gagnant-gagnant, en France il y a un savoir-faire qui n'est pas démontré. En Algérie il y a de gros besoins. C'est un marché important. C'est un marché qui peut être pivot sur la région et sur le continent. Il y a clairement des opportunités de gagnant-gagnant entre l'Algérie et la France. En plus, historiquement, ce sont deux pays qui ont un passé et très certainement un avenir commun. Donc, je pense que la France a tout à gagner à se rapprocher de l'Algérie dans ce sens, et l'Algérie aussi. Maintenant, quels sont les termes de ces négociations, de ces contrats qui peuvent être mis en place ? Là est la grande question. Mais
est-ce que vous voyez des exemples concrets de colocalisation, justement ? Il y a des choses qui sont...
Vous savez, le coût de la main-d'œuvre en Algérie, de l'heure, c'est 1,64 $.
C'est peu.
C'est très peu. 1,64 $, vous avez le coût du transport est très bas, parce que c'est du fret. Vous êtes à même pas 24 heures par bateau de Marseille. C'est écologique, parce que vous n'avez pas la pollution du transport par camion. Ça coûte plus cher d'envoyer de la marchandise du nord de l'Europe vers la France que de l'Algérie vers la France. Donc avec des coûts moindres et en plus une population qui est éduquée, qui demande à être formée. Donc nous avons tout à gagner.
Donc sur le papier, tout est possible. C'est-à-dire plutôt que de produire en Chine ou en Asie, on pourrait produire plus près et puis peu cher en allant en Algérie, au Maroc, etc. Mais sauf que dans la pratique, ça a pas l'air de se concrétiser. Pourquoi ? C'est quoi le blocage ?
Alors je ne sais pas quel est le blocage, mais en tout cas, il y a aujourd'hui tous les ingrédients pour pouvoir mettre en place ces synergies. Est-ce que c'est la problématique bureaucratique qui fait que les entreprises françaises ont du mal à venir en Algérie, qu'elles ont du mal à s'installer, qu'il y a un manque de visibilité fiscale qui fait que, vous savez, quand en tant qu'investisseur, lorsque vous allez dans un pays et qu'on vous donne une visibilité fiscale moindre avec des effets rétroactifs, c'est assez compliqué.
Qui se passe en Algérie ?
C'est ce qui se passe en Algérie, c'est ce qui se passe aussi en France. Vous avez le même problème en France. Et d'ailleurs, c'est la problématique. Si vous avez des effets rétroactifs et vous investissez dans un pays où vous n'avez pas la possibilité de récupérer vos dividendes ou de payer plus demain parce qu'il y a un changement de loi, en tant qu'investisseur, c'est assez compliqué. Donc aujourd'hui, je pense que ce qui serait nécessaire, c'est de voir quelles sont les synergies possibles, comment les mettre en place et comment leur assurer une stabilité. Donc nous avons tous les ingrédients humains. Il y a un indice de confiance important entre les deux pays. Et je pense que les deux pays ont à gagner, d'autant plus que la France aujourd'hui vit une crise qui est majeure, avec un taux de chômage important, avec une crise financière mondiale qui risque d'être beaucoup plus importante que celle que nous avons eue en 2008-2009. Donc l'Algérie pourrait être une solution à la problématique économique de la France.
Vous êtes à la fois français et algérien. Est-ce que vous avez l'impression, en tant que français, parce que vous avez vécu ici longtemps, vous avez l'impression que les Français perçoivent le potentiel économique de l'Algérie, ou est-ce que finalement la vision qu'ont les Français de l'Algérie n'est pas polluée par beaucoup de choses, la politique, la crise migratoire, énormément d'autres points que les sujets économiques ?
Alors, sur cette question... C'est le climat politique en France est délétère. Je le trouve triste. On est sur les questions migratoires. Quand vous avez un pays qui est en crise, il faut toujours trouver un bouc émissaire. Et généralement, c'est l'étranger. Je suis né en 72. Je me souviens lorsque on avait Monsieur Giscard d'Estaing avait incité les Algériens à retourner en Algérie contre, c'était je crois 1 million de francs français à cette époque.
C'était les rues qui avaient proposé
exactement,
ça.
Exactement. Et j'ai l'impression que l'histoire se répète continuellement. J'ai l'impression qu'on nous explique que vous êtes persona non grata, que vous êtes le problème de tout ça, et que être Algérien aujourd'hui, c'est compliqué, c'est pas bien vu. Lorsqu'un drapeau algérien est sorti dans des lieux publics en France, c'est vu comme étant une agression ici en France. On ne retire que le côté négatif, alors qu'il y a...
Donc finalement, ce potentiel économique algérien dont vous parliez, il n'est pas vraiment perçu.
Il n'est pas vraiment perçu, et en plus, s'il est perçu, il est mis en second plan.
C'est pour ça que la Chine réussit à marquer des points importants en Algérie ?
Oui, la Chine marque des points importants, je pense, par sa capacité de financement et puis son côté apolitique dans les choses. C'est-à-dire que lorsque la Chine rentre dans un pays, la Chine a tendance à ne pas s'impliquer sur la dimension politique, ce qui est assez compliqué pour la France du fait du passé historique.
Mmh. Donc vous félicitez de ces liens grandissants entre la Chine et l'Algérie, parce que c'est vrai qu'en Afrique du Nord, l'Algérie, c'est un partenaire important pour la Chine.
Pas nécessairement, parce que ce qui me chagrine, c'est que lorsque les Chinois investissent en Algérie, ils apportent leur main-d'œuvre. Alors que vous avez des millions de chômeurs en Algérie, pourquoi ne pas utiliser la main-d'œuvre locale ? Et c'est là la partie qui fait mal.
Il y a un mot que vous n'avez pas prononcé concernant l'Algérie, sa jeunesse, que vous évoquiez tout à l'heure, c'est le mot chômage.
Vous avez beaucoup de chômeurs en Algérie. C'est, si vous regardez la catégorie 14-25 ans, parce que beaucoup quittent l'école très tôt, nous avons un taux de chômage de 25%, qui est l'équivalent de ce que l'Espagne a connu en 2009-2010, alors que c'est un pays qui aurait dû être en pleine croissance. Donc quand vous avez une majorité, enfin un nombre important de cette jeunesse qui quitte l'école et qui perd ce savoir potentiel, c'est tragique pour les générations futures. Un pays ne peut se projeter que par la connaissance, le savoir. Lorsque vous avez une jeunesse qui décide d'abandonner l'école, il y aura nécessairement des conséquences à l'avenir.
C'est-à-dire que c'est un problème de formation qui peut nuire au développement ultérieur.
Bien sûr. D'ailleurs, lorsque vous êtes en Algérie, il y a un gros problème, un grand manque de managers. Et c'est pour ça que la diaspora est souvent sollicitée à ce niveau-là. Vous avez de jeunes Algériens qui vivent en France, qui décident de retourner en Algérie pour pouvoir occuper des postes de manager dans de grosses entreprises privées. Parce que localement, il est assez compliqué d'avoir cette compétence structurée avec une connaissance des langues, connaissance des marchés à l'international. Donc c'est assez, il y a de gros besoins à ce niveau-là.
En 2007, vous vous présentiez comme lanceur d'alerte et vous aviez prévu la crise des subprimes de 2008. Tout à l'heure, vous disiez que la situation financière mondiale était très comparable, même peut-être potentiellement plus critique que celle qui prévalait alors. Vous pouvez nous annoncer une catastrophe imminente. Qu'est-ce qu'on doit attendre de cette situation financière internationale ?
Alors, ce qui s'est passé depuis 2008-2009, on était dans une crise de subprime dans un certain secteur du marché financier qui s'est finalement propagé aux banques, qui s'est propagé par la suite aux États, qui est devenu un problème de dette souveraine. Et qui, au lieu de laisser s'effondrer ce qui devait tomber, les mauvaises boîtes, les mauvaises banques, on a décidé, la Banque Centrale Européenne et la Fed ont décidé de mettre en place une sorte de planche à billets, le quantitative easing, pour essayer de soutenir ces activités. Et finalement, on s'est retrouvé à créer une nouvelle bulle spéculative. On a eu de l'argent pas cher qui a été réinvesti dans les boîtes. Et finalement, il y a une déconnexion beaucoup plus importante aujourd'hui du réel et du financier qui fait que finalement, rien n'a changé. Et le niveau des crédits disponible aussi bien aux États-Unis qu'en Europe pour du financement à bas retour sur investissement a explosé. Si, vous me demandez tout à l'heure pour vous donner à titre d'exemple, la dette américaine est aujourd'hui de 429% du PIB américain. On parle de 76 trillions de dollars. Alors que si on regarde le niveau de 2008, on était à 46 trillions. Donc on était à 313%. Donc on est passé de 313% du PIB américain à 429% du PIB américain. Donc entre 2008 et 2016. Donc finalement, on a créé de la monnaie pas chère pour financer des activités pas nécessairement rentables.
Et donc ça va s'effondrer.
Avec un ralentissement économique en Chine, vous savez, on a eu le plus bas taux de croissance chinois depuis 25 ans. Avec les matières premières qui sont au taquet, ça va nécessairement lâcher. Je suis intimement convaincu que nous sommes déjà rentrés dans une spirale déflationniste, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis. Je suis intimement convaincu que la Chine n'aura d'autre choix, même si aujourd'hui elle défend sa monnaie, n'aura d'autre choix que d'évaluer sa monnaie de 35%.
Eh bien, c'est sur ces pronostics peu optimistes que se termine cette émission. Merci à vous, Kamal Benkoussa, d'avoir accepté notre invitation. Guillaume Munier a réalisé et mis en onde cette émission. Laure Temporville, Romain Ferré et Christophe Valette étaient derrière les caméras. Je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures économiques.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, sur RFI.